Donc je vais prendre vraiment 5 petites minutes pour revenir à la conférence de Véronique Robert, conférence qui a eu lieu donc le 19 avril. Elle nous parlait de idéal, jouissance et angoisse. Elle a rebondi au fond sur les propos que j'avais eus en reprenant la question de la demande. Quelle est la demande finalement d'un analysé ou d'un futur analysé face à l'analyste? C'est une demande d'être entendu, mais d'être entendu pour rien. Et donc dans ce pour rien se situe la place du désir, et il s'agit plutôt pour l'analyste de ne pas répondre à cette demande, mais simplement bien de l'entendre. Alors, elle nous rappelle que dans les 3 chapitres qu'elle nous présentait au fond la fois dernière, il y avait une question transversale à tous ces chapitres qui était la place de l'analyste dans le transfert. Question qu'elle a déclinée sur 3 modalités que je vous rappelle. Où l'analysé situe-t-il l'analyste? Où l'analyste se situe-t-il pour lui répondre? Quelle est la place à occuper par un analyste? Alors, elle nous rappelle que beaucoup d'approches, et d'ailleurs Lacan ne s'oppose pas à cette idée, nous dit que l'analyste prend pour l'analyser la place de son idéal du moi, et que Lacan dit que c'est vrai, mais que ce n'est pas suffisant, que ça ne résorbe pas la question que de dire ça. Il doit avoir donc l'analyste, pour se situer par rapport à cette question, une idée assez précise quant à son idéal du moi à lui, et il doit surtout, c'est ce qui est important, savoir qu'il n'est pas le seul, il n'est pas le seul analyste, mais il fait partie d'un groupe, mais pas au sens d'un troupeau, puisque chaque fois qu'un analyste pose un acte analytique, c'est un acte qui va à l'encontre de cet effet de masse, nous rappelle-t-elle. Donc, dans un deuxième temps, elle a aussi amené d'une façon très exhaustive la distinction entre le moi idéal et l'idéal du moi. Donc je ne vais pas revenir sur tout son développement, mais rappelez-vous la petite vignette de Lacan, la petite image du fils de famille avec sa petite voiture de sport, et les 3 cas cliniques qu'elle a apportés au fond pour illustrer ces différences du moi idéal et de l'idéal du moi. Montrant qu'au fond, si on se satisfait de son rapport au moi idéal à cette image, on peut tout à fait se passer de l'objet du désir et ne s'attacher qu'à cette image qui est déterminée par l'idéal du moi. En l'occurrence, nous disait-il, tel ça peut être le père, un trait du père ou des traits du père. Elle nous a aussi rappelé le schéma optique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en disant qu'au fond, ce schéma servait de métaphore à Lacan, et qui lui permet principalement, au fond, d'amener la distinction entre imaginaire et réel, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors d'une façon très claire, et de montrer l'importance de la place du grand autre pour un sujet, afin qu'il puisse apercevoir son moi idéal. Elle a relaté l'article auquel Lacan fait référence, article où il est question notamment en ce qui concerne l'idéal du moi, de l'importance de la pulsion de mort. Alors, elle nous a parlé à travers ça de la constitution de l'objet, de l'importance du grand autre, et en est arrivée aux 3 identifications que Freud a repris, à savoir identification au père, identification à l'objet d'amour qui se refuse et l'identification hystérique, en insistant sur le fait que cette identification se fait par un seul trait, en général un signe, un caractère ponctuel. Enfin, elle a parlé de l'angoisse et du désir de l'analyste, et nous dit-elle, le désir de l'analyste est d'un autre type, un désir pur qui ne s'articule pas à l'autre, d'où ne passe pas par une demande d'amour. Voilà. Je pense que je vais en rester là pour le résumé de la séance de Véronique Robert. Et nous avons le plaisir d'accueillir en cette fin de journée Bernard Sénave. Bernard Sénave qui est directeur du Courtil à Tournai, où travaillent d'ailleurs de nombreux autres conférenciers que nous avons accueillis cette année, qui est psychanalyste à Lille et à Tournai également, qui est membre de l'antenne clinique de Lille et qui est analyste de l'école, c'est-à-dire analyste de l'école, au fond, on pourrait peut-être en dire deux mots, mais c'est quand on a, au fond, témoigné de son parcours analytique.
Peut-être on peut faire un peu de place à ça.
Voilà, je vous laisserai. Oui. Voilà, c'est une très bonne idée de faire peut-être un peu de place à ça à la fin, effectivement. Alors, Bernard Sénave va nous parler des séances 26 et 27 sous le titre « L'homme avec l'analyste se réveille ». Je vous cède la parole.
Oh là là. Bon. Alors, à vous entendre, en fait, je vais répéter parce que je vais répéter, c'est-à-dire c'est Lacan qui se répète. Je me suis aperçu, j'ai eu l'impression en lisant ces deux dernières séances qu'au fond, il remettait le couvert encore une fois. Il reparlait de tout ça, et il reparlait de ce que vous avez dit. Il reprend tout ça encore une fois, et à l'intérieur de ces deux séances, non seulement il part d'un point, mais pour arriver à un autre point, mais il revient au premier point pour repartir au second, et il revient encore au premier point pour repartir au second. Tout ça avec des petits ajouts, des petites modifications. Ce sont deux séances. Je ne sais pas si elles sont tout à fait métaphoriques de l'ensemble du séminaire. Je pense plutôt que elles sont elles s'inscrivent dans un contexte, j'allais dire, politique du moment où Lacan parle du transfert. C'est un work in progress. C'est pas quelque chose d'achevé. C'est vraiment quelque chose qui est au travail. Et ça a d'ailleurs été une difficulté pour moi de lire ces séances, parce que évidemment il y a la seconde partie de son enseignement qui reprend tout ça, où il élabore ça d'une autre façon, et notamment 6 ans plus tard, puisque là on est en 61, en 67, où il va parler de façon plus précise du transfert et établir le mathème du transfert. Et j'aimerais bien aussi avoir un petit peu de temps à la fin pour parler de ça, parce que c'est, au fond, ceci n'est pas quelque chose d'achevé. C'est quelque chose qui... C'est un moment d'un travail qui est en cours sur le transfert. Ça, c'est un premier point. Alors, je vous disais que c'était un moment qu'il fallait inscrire ce séminaire, qu'il fallait entendre ce séminaire dans un contexte politique particulier. Pourquoi ? Parce que en 61, au fond, on est à un moment charnière dans l'histoire de l'enseignement de Lacan. C'est un moment difficile, je dirais qu'il est nécessaire pour lui de reprendre de façon, j'allais dire, beaucoup plus précise ce qu'il faut entendre par différents concepts de Freud. Je dis ça parce que à cette époque, d'ailleurs déjà avant ça, il y a tout le mouvement de l'ego psychologie qui fait fureur à ce moment-là, c'est-à-dire cette orientation qui consiste à confondre complètement ce qu'il en est du moi idéal et de l'idéal du moi, et donc d'orienter dans le cas de l'ego psychology, d'orienter le travail analytique, la cure, sur le moi du psychanalyste, raison pour laquelle il est important pour Lacan d'essayer de dire quelque chose du transfert, puisque l'idée de l'éco-psychologie, c'est de permettre à l'analysant de s'orienter avec le moi de l'analyste. Soyez comme moi, quelque chose comme ça. Enfin, je caricature à peine. C'est comme ça que un moi fort, C'est ça qui compte pour l'orientation analytique à ce moment-là. Donc, il fallait, j'allais dire, faire un sort à ça. Donc, ça s'inscrit vraiment dans un moment politique d'une très grande importance. Alors, c'est un premier point d'introduction. Je voudrais mettre un deuxième point d'introduction. C'est un petit mathème que moi j'ai eu énormément de mal à comprendre, qu'il m'a fallu des années et des années pour essayer d'attraper quelque chose de ça. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris, mais je vais l'écrire au tableau, parce qu'on ne le retrouve pas dans ces séances. Je vais l'écrire au tableau parce qu'il me semble que ça précise quelque chose de ceci. Ouais, évidemment, on ne voit pas là à travers. Hein, il n'y a pas de quoi effacer le tableau. Hein. Donc c'est A sur moins phi. Voilà. Bon, on va essayer d'expliquer ça. Ça, c'est la formule de la métaphore. C'est donc l'objet A sur moins phi. Il me semble que c'est notamment de ça qu'il est question dans ces deux séances ici. Et puis, il est question, évidemment, de ce dont on a déjà parlé, hein, de ce que les autres ont amené, c'est-à-dire à ne pas confondre moi idéal, idéal du moi. Je vais moi-même reprendre les choses parce que c'est ce dont il est question dans ces deux séances ici. Je vous ai dit que je voudrais bien qu'on garde du temps à la fin pour pouvoir se parler. Et notamment pour pouvoir tenter de dire quelque chose de plus sur le transfert qui se rapporte à la seconde partie de son enseignement. Et pour, j'allais dire, peut-être déjà susciter, j'allais dire, les questions, je voudrais commencer par une petite vignette clinique. Donc, il s'agit d'une jeune femme, donc qui est un sujet obsessionnel, qui a un symptôme qui l'atteint depuis longtemps, et qui est le suivant. En fait, tous les soirs, elle doit prévoir son programme du lendemain. Et elle ajoute « pour se rassurer ». C'est-à-dire qu'elle doit déjà la veille préparer ses petites tartines, enfin bon, prévoir tout ce qu'elle va faire, enfin, tout ce qu'elle doit faire d'important le lendemain. Et elle dit pour se rassurer, elle a déjà tourné ça dans tous les sens, parce que donc il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'imprévu, ça l'angoisse un peu quand même. Donc elle aime autant prévoir sa journée du lendemain, voire de toute sa semaine, si vous voulez. Et depuis quelque temps, plusieurs semaines, elle se réveille le matin beaucoup plus tôt, vers 5h30, et elle ne peut pas se rendormir. Et alors elle m'explique, je vous passe les détails, enfin, comment elle en vient à ça, mais par association libre, elle me dit, ça me fait penser à un souvenir. Elle a deux souvenirs à raconter. Je vous parle du transfert. C'est un souvenir, le premier souvenir, c'est un souvenir qui me revient de quand j'avais 7-8 ans. 7-8 ans, tout le monde sait ça, c'est l'âge de raison. Alors l'âge de raison, c'est quoi ? Ben, l'âge de raison, c'est notamment de pouvoir faire l'hypothèse de la mort. C'est vers 7-8 ans, un soir, elle descend angoissée, alors qu'elle devait déjà être endormie, et elle va voir son père pour lui dire « Papa, j'ai peur de mourir ». Et son père lui répond, dis-toi bien tu vivras au moins jusque demain matin. Ce qui n'était pas trop pour la rassurer, vous voyez. Et donc elle est montée vraiment fâchée sur moi, en me disant, vous voyez, ben, c'est, vous vous rendez compte, c'est avec ça que j'ai dû remonter et me recoucher, avec des paroles qui ne me rassuraient pas du tout. Il faut bien se dire que ce n'est pas facile de répondre à une question comme celle-là. Bon. Puis lui revient un second souvenir. C'est un souvenir qu'elle a quand elle a. Qui lui vient de ses 18-20 ans. Et là, donc, elle se retrouve le soir dans sa chambre et elle va se blottir dans les bras de son ami et elle lui dit. J'ai besoin d'être rassuré. Dis-moi que tu m'aimes. Alors je ne vais pas plus loin, parce que je trouve que ce matériel-là, je pense, il est vraiment, je pense, paradigmatique de ce que Lacan tente de définir dans ce séminaire sur le transfert, du transfert. On peut très vite, enfin on pourrait très facilement dire, voilà, elle vient voir l'analyste. C'est ça qu'elle met en jeu. Et on peut repérer déjà ici, dans ce petit matériel, si vous voulez, qu'elle ramène, la place de l'idéal du moi qu'elle va trouver chez son père, le trait parce que c'est ça qui se croise ici dans ces deux leçons, qui me semble faire nœud et qui est le plus important. Que l'idéal du moi et que le moi idéal, qui sont deux choses tout à fait différentes, bien l'un ne va pas sans l'autre. C'est que donc chez son père, elle va chercher cet idéal qui démontre qu'elle est aimable pour elle-même. Et c'est ça qu'elle met en jeu dans le travail qu'elle fait depuis un certain temps maintenant. On peut en reparler après si vous voulez bien. De cet exemple-là. Mais il me semble que dans ce matériel, on a les deux versants, celui de l'imaginaire du symbolique qui se croisent. Donc on vous a parlé de la leçon 26, enfin des leçons qui précédaient, et donc est-ce que je ne sais pas si elle a parlé de. Si elle a parlé de l'angoisse, et notamment du signal de l'angoisse dans les sociétés des animaux, par exemple. Elle n'a pas ramené cet exemple-là. Lacan reprend cet exemple. Donc, il dit ceci d'ailleurs. Chacun sait le rôle que joue le signal chez les animaux sociaux, comme les bêtes de troupeau. Lorsque se présente l'ennemi du troupeau, le plus malin ou le veilleur parmi les bêtes du troupeau, il est là pour le sentir, le flairer, le repérer. Et la gazelle ou l'antilope dresse le nez, pousse un petit bramement et cela ne traîne pas. Tout le monde s'en va dans la même direction. Donc il y a là un signal, le signal comme réaction d'un danger dans un complexus social, au niveau biologique. Et donc, il est saisissable dans une société observable. Eh bien, dit Lacan, il en va de même du signal d'angoisse. Mais là, si vous voulez, c'est bien sûr, il prend l'exemple des groupes, des troupeaux. Mais là, dit-il, ça se passe au fond, au niveau du moi. C'est du côté de l'alter ego que ça se produit. De l'autre qui constitue son moi et que le sujet peut le recevoir, ce signal. Donc l'angoisse est un signal. Alors on va voir en quoi. Mais Lacan explique ce danger externe, extérieur, qu'on repère chez... Dans les groupes d'animaux, eh bien, ce danger est tout à fait transposable en un danger interne, comme d'ailleurs le fait Freud. le danger qui est perçu par le troupeau est le même que le danger interne du sujet. Ça, c'est, il me semble que c'était dans la leçon précédente. J'ai repris ça pour relancer cette séance, ces deux séances-ci. Et là, il explique d'ailleurs que le désir, c'est là-dessus qu'il termine sa leçon, le désir, c'est le remède à l'angoisse. C'est-à-dire, l'angoisse, et inversement d'ailleurs, l'angoisse, c'est le signal que le désir va s'arrêter. C'est le moment qui précède l'arrêt du désir. J'assiste là-dessus. Lacan souligne ça, et vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, l'objet se dévoile, si vous voulez. Alors, il termine en annonçant qu'il va parler du trait unaire qui a été évoqué, qui se différencie, qui différencie foncièrement l'idéal du moi, et qui différencie l'idéal du moi idéal. Alors, dans ces séances qui vont suivre, dans les deux dernières séances, Lacan va nous parler du sujet de l'identification. Donc, il insiste une fois de plus, puisque c'est ce que j'ai entendu, il insiste une fois de plus sur la différence, la nécessité de distinguer radicalement, en fait, ces deux niveaux d'identification. Le moi idéal ne se confond pas avec l'idéal du moi. Alors, il va reprendre encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, c'est de longue date qu'il a amené son schéma optique. Enfin, on pourrait même... on doit considérer que c'est depuis, je pense, dans les années 50, quand est-ce qu'il a amené... 53. Oui, mais avant ça, il y a eu le stade du miroir. Voilà. Ah, mais il faut considérer le stade du miroir. Ouais, voilà. 1936, le stade du miroir. Donc ça... Ça fait longtemps, c'est le premier pas. Alors, ce schéma, d'ailleurs, n'est pas achevé dans ce séminaire-ci. Il est encore en construction, puisque dans le séminaire suivant, sur l'angoisse, il le reprend une fois encore, en le précisant encore. Vous voyez, c'est vraiment un work in progress, pour l'abandonner complètement par la suite. Hein. Voilà. Donc, ce schéma qui démarre au stade du miroir, je le propose comme ça. Je vais le reprendre, si vous voulez bien, une fois encore, de manière simplifiée. Alors, vous avez le miroir concave. En face, le miroir plan. Et puis, c'est un rappel, je suppose, hein. Voilà. Vous avez une sorte de caisson renversé, à l'intérieur duquel on met une poterie. Voilà. Ce qui importe, c'est le trou. Et au-dessus, donc, on va mettre l'œil du sujet ici, et au-dessus les fleurs, le bouquet de fleurs, pour voir apparaître de l'autre côté ce qui ne se voit pas à l'intérieur, mais à travers le miroir, quand c'est bien fait, on voit apparaître le bouquet de fleurs dans la poterie. Et ce qu'il ajoute dans ce schéma, c'est quand même le signifiant et l'idéal du moi. Et le miroir étant ici, mais l'autre aussi ici. L'autre ici. On va considérer que le moi idéal est ici. Ou bien I de petit a. Ah, ici. Voilà. Dans cette séance, il insiste beaucoup, parce que ça a son importance, ça a une grande importance, il insiste beaucoup sur l'investissement par le sujet. Il y a une dimension, donc il y a cette dimension de fascination du sujet pour cette image idéalisée. Elle le fascine et cette image qu'il voit dans le miroir est chargée d'un pouvoir de fascination. Il y a là une libido, si vous voulez. Elle est libidinalisée. Et donc il l'écrit avec le petit matème que vous connaissez maintenant, c'est petit i entre parenthèses de petit a. Petit i de petit a, le petit a étant entre parenthèses. Je ne sais pas si ça vous a été dit. Mais il est nécessaire que le petit a soit dans les parenthèses parce que il y a quelque chose dans l'image qui recouvre, qui voile l'objet. Parce que s'il était dévoilé, il apparaîtrait comme réel, c'est-à-dire comme l'horreur. Alors ça, c'est donc cet investissement de cette image idéalisée, donc du moi, c'est ce que Freud distingue sous ce terme d'investissement narcissique. Et c'est ce qu'il faut appeler moi idéal, qui se distingue de celle de moi, d'idéal du moi. Alors, pourquoi est-ce qu'il insiste tant sur cette distinction ? Eh bien, parce que ça ne va pas de soi que cette image soit idéalisée. Ça n'est pas automatique. Au fond, après tout, j'allais dire, dans le règne animal, on peut voir ça aussi. C'est que l'animal peut éventuellement se reconnaître dans un miroir, mais... Il se passe quelque chose d'autre, ou en tout cas quelque chose de plus raffiné, de plus compliqué chez les êtres qui parlent, chez les êtres parlants. Et pour que ce phénomène d'identification narcissique, se reconnaître dans le miroir, pour que le petit homme, celui qui parle, se reconnaisse dans le miroir, dans ce phénomène d'identification narcissique, il est vraiment indispensable que deux registres entrent en fonction simultanément. Un autre registre, celui du symbolique. Ça, c'est nouveau quand même, par rapport à ces premières élaborations sur le stade du miroir. Se conjuguent deux phénomènes simultanément. On ne peut pas se reconnaître dans le miroir si on est un être parlant sans qu'il y ait de la parole. On pourrait dire ça. C'est indispensable. Les deux vont ensemble. Et le fait qu'il y a de le langage, le fait que l'être humain est un être qui parle, eh bien, je vais tout de suite au bout de ces deux séminaires, eh bien, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose qui rate. Il y a quelque chose qui manque, et ce manque se trouve dans l'image aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ce matème-là, petit a sur moins phi. Et ça, c'est parce qu'on a affaire à des êtres qui parlent, des êtres parlants. Donc, Lacan est amené à modifier, à affiner, à améliorer son schéma optique, qui, en le dotant de cette instance supplémentaire, qui est l'instance du grand autre. Alors, vous savez, le grand autre, je pense sûrement que ça a été dit aussi, je ne sais pas, peut-être je répète des choses qui sont connues. Hein. Le grand autre, c'est quand même le lieu de la parole, c'est le lieu symbolique. C'est d'abord ça. C'est dans le grand autre que se trouve inclus, granti, donc l'idéal du moi. C'est là que se trouve l'idéal du moi. Et donc on voit, j'allais dire, c'est presque aussi simple que ça, c'est en tout cas très logique, on voit que pour qu'il puisse accéder, pour que l'être parlant puisse accéder à son image, à s'identifier à son image, à s'identifier narcissiquement à son image, eh bien, il doit en passer par la parole de l'autre. D'une façon très simplifiée, on pourrait dire, donc, d'ailleurs, ça se voit, j'allais dire, cliniquement, si vous avez cette expérience-là, sûrement, quand le petit enfant, ça se fait très tôt, ça, je l'ai moi-même observé régulièrement chez mes propres petits-enfants. Quand vous avez l'enfant dans vos bras, qu'il peut se reconnaître dans le miroir, c'est la mère qui dit « Regarde, c'est toi ». Il faut cette parole, on pourrait dire ça quelque part. Je le dis de façon... C'est une métaphore que je prends là, mais il y a quelque chose de ça. Il faut l'autre, et d'ailleurs l'enfant a toujours ce regard sur l'autre qui le tient dans les bras pour accéder à sa propre image. C'est indispensable. Sinon, il voit, dans le cas de la schizophrénie, il ne se reconnaît pas nécessairement dans le miroir. Ça aussi, vous l'observez cliniquement. Alors, on va reprendre encore tout ça et essayer de le préciser encore plus. Hein. Donc, comment le sujet va-t-il parvenir à se percevoir et à se constituer en tant qu'image ? Eh bien, dit Lacan, il faut un artifice. Il va attraper l'image réelle qui se forme dans le miroir. C'est cette image-là, l'image réelle. Hein. Parce que, en fait, ce qu'on voit, ça, on vous l'a décrit, c'est le vase avec le bouquet. Alors que, on n'a pas expliqué ça. Si, non ? Oui, d'accord. C'est un... Oui, c'est un montage. Hein. Donc, il y a d'un côté un caisson dans lequel on met un montage optique de physique qui est connu. Hein. On met un vase et au-dessus, on met un bouquet de fleurs. Eh bien, si l'œil, si le regard est placé d'une certaine façon, dans un certain angle, si vous voulez, si le regard se trouve à un endroit très précis, on a ici un miroir concave, donc le vase est reflété dans le miroir concave et va se projeter sur l'écran qui est là, qui est un autre miroir, un miroir plan. Ça, c'est un miroir plan. Eh bien, l'œil qui est là, qui observe là, verra ce qu'on appelle l'image réelle qui est de l'autre côté, au fond, c'est le vase qui se retrouve mis ici, alors à l'endroit, alors qu'il est à l'envers là, dans lequel on va se mettre, dans le col duquel va se mettre le bouquet. Je dis le col duquel parce qu'il y a un trou dans le vase. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'image réelle, en physique, hein. Donc la question, c'est tout de même, maintenant, d'essayer de comprendre comment l'autre, le grand autre, le lieu de la parole, va prendre place dans toute cette histoire. Alors je vous dis, je n'utilise pas le mot histoire de façon... Je choisis ce mot, histoire, parce qu'effectivement, c'est un empiqué des signifiants dans l'histoire proche que tout ça va pouvoir se faire. Donc, à quelle place va venir ce grand autre, quelle place il va occuper ce grand autre dans cette histoire où se constitue un sujet. Alors, progressons avec Lacan. Et Lacan revient à ce que Freud a tenté de formaliser dans son texte sur l'identification. Donc c'est le chapitre 7 du Psychologie des foules et analyse du moi. Donc, il dit que dans ce texte, je vais résumer avant. Donc, ce qu'il met en évidence, c'est tout de même qu'il y a deux choses qui se conjuguent en même temps, du côté de l'objet et du côté du signifiant, du côté du symbolique. Il dit ceci. Donc, si Freud met l'accent sur l'identification narcissique, s'il considère que l'investissement narcissique est central et essentiel, si c'est autour de l'investissement narcissique que se joue le sort du désir humain, Freud précise aussi qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le champ narcissique. Et cet autre champ que Freud introduit dans ce texte sur l'identification, c'est un rapport particulier à ce que Lacan définit comme étant l'objet archaïque, l'objet réel. C'est le rapport à la mère. C'est, dit-il, le champ nourricier, celui du rapport à l'objet saint, le saint maternel. C'est ce qui se passe dans le champ nourricier de l'objet maternel. Alors, vous voyez ici, on se situe, dit comme ça, à une sorte de frontière, une sorte de limite, si vous voulez. Entre, si vous remarquez bien, entre une zone, dans une zone, entre la satisfaction du besoin et le désir. Satisfaction du besoin nourricier et le désir. Et qui est tout autre chose que la satisfaction du besoin alimentaire. Et cet autre champ qui est défini par Freud est d'un ordre que. Est d'un autre ordre que celui de l'investissement narcissique. Cet autre champ, c'est celui de l'identification primaire, dit Lacan. On va voir comment c'est possible, parce que vous voyez, je suis en train de passer ici... En faisant usage de l'objet, je suis en train de passer au symbolique. On va essayer de saisir ça. Comment on peut passer de l'objet, l'objet réel, l'objet nourricier, le saint, à quelque chose de symbolique. Donc, Lacan dit que c'est grâce, en fait, à la fonction du signifiant qui s'introduit ici, dans cette dialectique, que va pouvoir s'ouvrir tout autre chose pour l'être humain que la simple capture imaginaire de son corps. C'est là où les choses se corsent, si vous voulez. Il y a autre chose qui va se passer que la simple identification narcissique. Donc, il va ouvrir à la possibilité de sortir de la pure et simple capture imaginaire. Ça, c'est, on trouve ça chez les animaux, la simple capture imaginaire. Eh bien, ici, il va pouvoir sortir, aller au-delà de ça. Ça va lui permettre d'introduire le champ du désir et de ne pas rester simplement à la satisfaction du besoin, par exemple alimentaire. Alors c'est quoi ce champ? Eh bien, il faut peut-être préciser, définir de façon un peu plus précise ce qu'on entend par identification primaire. Et dit-il, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, c'est, il va fort, c'est ici qu'il dit qu'avec Freud, l'homme se réveille et il s'aperçoit que depuis des millions d'années, l'homme est nécrophage. C'est, dit Lacan, ce qu'il faut entendre dans ce que Freud articule sous le nom d'identification primaire, la première espèce d'identification. Oui. Page 400. Oui. Alors, donc, je suis allé un peu relire cette. J'ai tiré un petit extrait, si vous voulez, de ce mode d'identification chez Freud. Hein. Donc, il parle de cette identification justement à propos de la préhistoire de l'Œdipe, c'est-à-dire avant que ne s'installe l'Œdipe. Et notamment, parlant du petit garçon, il explique qu'il prend son père comme idéal et simultanément, il effectue un investissement objectal de la mère. Et Francis Freud, ce sont là deux liens différents, ce ne sont pas les mêmes liens. Et ces deux liens peuvent coexister pendant un certain temps, toute la période que Freud décrit comme étant pré-œdipienne. Alors, le lien à l'objet et prélèvement d'un trait, d'insignifiant au père, ou d'insignifiant au lieu de l'autre, il va donner un exemple après. On pourrait d'ailleurs reprendre des exemples, si vous voulez, tout à l'heure, dans la discussion qu'on aura. Ce prélèvement de ce trait dans l'autre, eh bien ça va de pair. Ça va ensemble, pair, P-A-I-R. D'ailleurs, Lacan précise que chaque fois que les identifications à l'idéal du moi sont invoquées par Freud, par exemple l'introjection du deuil, le traitement du deuil, comment on fait son deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est toujours, dit-il, ça n'est toujours possible que par introjection d'un trait de l'objet disparu. Alors, c'est là, il parle de trait unaire, c'est là qu'il dit que ce trait, c'est insignifiant. C'est toujours insignifiant. Un mot, au fond. Et c'est toujours par prélèvement d'un trait. Ça n'est jamais une identification massive, si vous voulez, à l'objet disparu. Et il insiste là-dessus parce que c'est sur ce point, il insiste sur ce point pour faire valoir l'intérêt, donc faire valoir le signifiant dans le processus de l'identification qu'on trouve dans l'idéal du moi. C'est toujours l'introjection d'un seul trait, comme que Freud nomme Einziger Zug, l'identification de l'idéal du moi est une identification par trait isolé, par trait ayant structure, nature et sens de signifiant. Et il faut situer dans le même contexte l'introduction de la fonction de l'objet partiel. Donc, si on s'arrête un instant ici, on situe dans ce phénomène de l'identification deux versants. Le versant de l'idéal du moi, petit i entre parenthèses petit a, et le versant, de grand i de grand a, et le versant du moi idéal, petit i de petit a. Donc, il y a un versant symbolique et un versant imaginaire, si vous voulez, mais les deux se croisent, les deux se nouent, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je vais reprendre, Lacan reprend une fois encore, si vous voulez, le rapport qu'il y a entre petit i, entre parenthèses, petit a, donc l'image narcissique, l'image idéalisée, et petit a, c'est-à-dire l'objet partiel. Alors, ça se complique un petit peu. Je ne sais pas si je vais pas trop vite. Non ? Parce que la question qui se pose, quand je parle d'objet partiel, si vous voulez, la question qui se pose, c'est comment on passe de l'objet de satisfaction à l'objet de désir. C'est ça la question. Et cette question, il faut, j'allais dire, la croiser, la nouer avec cette autre question, parce qu'il faut comprendre simultanément ce qui se passe au niveau du signifiant. D'une part, au niveau de l'objet aussi, d'autre part. Ce sont deux choses qui vont de pair. Alors, c'est quoi l'enjeu de cette question ? Eh bien, l'enjeu de la question, c'est ceci, c'est que pour qu'un sujet puisse se percevoir comme une image constituée, unifiée, un moi qui l'investit, qui l'attire, qui le fascine, qu'il investit libidinalement, une image aimable, et non pas, comme dans certains cas, chez certains sujets schizophrènes, un amas d'organes, si vous voulez, voire pas d'image du tout. Eh bien, il faut nécessairement, c'est là qu'il fait son pas de plus, il faut voir le petit mathème que j'ai écrit au tableau, il faut nécessairement introduire la dimension du manque. Quelque chose manque dans le tableau. Alors rassurez-vous, je vais vous montrer le manque, bien qu'il ne soit pas visible. Quelque chose échappe. C'est-à-dire, c'est Lacan qui... Je prends l'exemple de Lacan. Hein. Bon. Il n'est pas possible de comprendre quoi que de quoi il s'agit lorsqu'on introduit cette fonction du manque si on ne passe pas à l'étage du symbolique. C'est là qu'on doit introduire le symbolique. Parce que ce manque s'inscrit dans le symbolique. C'est la structure même du symbolique, si vous voulez. Alors, vous voyez... Si je reprends ce que j'ai dit au début, eh bien, c'est ici qu'il faut faire un saut de plus à cet objet du besoin pour l'élever à la dignité de l'objet d'amour. Je vous parle du manque. Donc, on sait ça, Lacan fait remarquer qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est subverti chez l'être parlant, chez l'homme. Alors l'animal satisfait ses besoins grâce à son inconscient. L'homme, pour satisfaire ses besoins, entend passer par une demande. Il doit s'adresser à l'autre. Il doit en passer par l'autre. Et dans cette demande, dans le fait qu'il parle, la parole va subvertir le besoin. Quelque chose rate. Le besoin ne peut pas être satisfait parce que quelque chose, dans la demande même, ne s'articule pas. Ceux qui ratent, ils ont le rejeton de l'opération, eh bien Lacan le nomme le désir. Le désir chez l'homme a quelque chose de paradoxal, de scandaleux, qui fait qu'il se distingue du besoin. Si l'animal peut satisfaire ses besoins, ça n'est pas le cas chez l'homme. Au-delà de la demande, il y a le désir qui reste insatisfait. C'est deux structures. La demande, en soi, porte sur autre chose que sur la satisfaction qu'elle appelle. Elle est, dit Lacan, demande d'une présence ou d'une absence. C'est cela que demande l'enfant quand il réclame le sein. La mère, l'autre, le grand autre, peut le lui donner à sa guise. elle a ce pouvoir de satisfaire le besoin selon son caprice à elle. Elle a ce privilège de le satisfaire ou de l'en priver. Ce privilège de l'autre, en deçà de la satisfaction cette fois-ci, dessine, dit Lacan, la forme radicale du don de ce qu'elle n'a pas, soit le don de son amour. Et par conséquent, lorsque un enfant demande à l'autre de satisfaire son besoin, il attend avant tout une preuve d'amour. Et si l'autre cherche avant tout à satisfaire les besoins de l'enfant, eh bien il ne fait qu'écraser ce qui n'est pas dit dans la demande de satisfaction du besoin, mais qui est essentiel, primordial, c'est la demande d'amour. Alors, avançons encore un peu. Donc, Lacan, dans ce séminaire, explique qu'au cœur de la fonction de ce petit A, cette fonction qui regroupe les différents types d'objets possibles qui interviennent, d'ailleurs, dans le fantasme, eh bien, donc ces différents objets que je pense ont déjà été énumérés, on va peut-être reprendre l'un ou l'autre, hein, eh bien, il y a quand même le manque symbolique. Au fond, si je veux essayer une métaphore, je dirais que je vous ai dit qu'il y avait un trou dans le vase. Si le vase correspond à l'enveloppe, si vous voulez, corporelle, qui fait qu'on a une image unifiée, une image aimable, si vous voulez, de soi, ce vase métaphorise ça. Ce vase est troué comme le corps est troué. Il est troué de plusieurs trous. Mais l'objet vient là pour tenter de combler ce manque. Alors, c'est de structure, enfin j'essaie de le représenter donc de façon imaginaire, mais ce n'est pas du côté de l'imaginaire qu'il faut le saisir, c'est du côté du symbolique qu'il faut le saisir. Le manque, il est de structure dans le symbolique. C'est lié à la condition du langage chez l'homme. Et ce manque symbolique, c'est ce que Lacan a nommé le phallus. Le phallus, c'est ce qu'il faut retenir dans l'affaire, c'est le point d'origine. Le point d'origine. C'est ce qui me permet d'introduire ici ce petit mathème que j'ai écrit tout à l'heure au tableau. A sur moins phi. Alors comment essayer de comprendre davantage, comment essayer de comprendre mieux ce petit mathème? Eh bien, ce petit mathème signifie que tous les objets partiels, tous les petits objets, sont les objets qui viennent pour combler les trous pulsionnels, tous ces objets viennent à la place des trous dans le corps, là où ils manquent, pour faire du corps une enveloppe unifiée. Et ce qu'il faut saisir, c'est que rien ne vient véritablement fermer ces trous, boucher ces trous, jamais. Si on veut les boucher, justement, alors ça fait problème. C'est là que peut surgir l'angoisse, justement. C'est ce reportez-vous au rêve de la belle bouchère. Elle rêve de quelque chose que son homme ne lui donnera jamais, ne pourra jamais lui donner. C'est cet exemple de la rivière de diamants qui se trouve à l'étalage de la bijouterie. Eh bien, il suffit que l'être aimé lui offre cette rivière de diamants pour que la femme éprouve un moment d'angoisse, le temps de pouvoir désirer autre chose. C'est ce qui donne leur statut d'objet perdu aussi. C'est ce qui donne leur statut d'objet perdu, définitivement perdu, préalablement perdu depuis toujours à ces objets partiels, et qui donne aussi leur accent d'objet séparable, objet possible à perdre, nous dit Lacan. ces objets ont en leur centre le phallus. Donc comment comprendre cette phrase? Eh bien, nous dit Lacan, pensez, je trouvais cet exemple très beau, pensez à ces îles dont vous voyez le plan sur les cartes marines. Donc les plans, quand on les voit dessinés, eh bien, c'est un trait qui fait le tour de l'île qui est représentée. Mais jamais vous ne voyez ce qu'il y a sur l'île même. Ce qu'il y a sur l'île n'est jamais représenté. C'est seulement le pourtour qui est représenté. Eh bien, dit-il, il en va de même pour les objets du désir dans toute leur généralité. Alors, la dernière leçon, parce que là j'ai essayé de ramener ce qu'il y avait dans cette leçon 26, dans la dernière leçon, d'abord Lacan dans la leçon qui précède, avait abordé la fonction de l'objet petit a dans son schéma optique. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit suffisamment clair, on pourra en discuter aussi. Alors cet objet, il est abordé, comme je viens de le dire, en tant qu'objet perdu, en tant qu'objet partiel. C'est un objet perdu et partiel. C'est-à-dire en tant qu'objet séparé venant à la place d'un trou dans le corps, en tant qu'objet manquant. Et cette notion d'objet partiel, il est allé le chercher chez Karl Abraham. Philippe me demandait de reprendre, j'ai pas eu le temps d'aller voir ça. Bon, le cas clinique, le texte de Karl Abraham, c'est un texte qui a été développé en 1924, allez le lire, et qui a pour titre « Essai sur l'histoire du développement de la libido ». Alors ce qu'il faut retenir de ce texte d'Abraham, c'est que l'objet partiel se trouve être, ça c'est important quand même, se trouve être élidé. Il est laissé en blanc dans l'image de l'autre, dans l'image investie, en tant qu'investie. L'objet partiel, ce serait la partie en blanc au centre du pourtour du dessin représentant l'île, si vous voulez. C'est le blanc dans le dessin, dans la carte de l'île. C'est ce que propose Lacan. Ce qui donne le brillant, si vous voulez, à l'île, ce qui intéresse, ce qui fascine. Là, c'est justement la partie laissée en blanc. C'est le trou. C'est compliqué. Il n'y a rien qui peut concrétiser l'objet partiel. C'est une fonction, au fond. Il n'y a rien qui peut... Au fond, ça ne pourrait pas être le sein. Parce que le sein, ça ne serait que l'organe qui vient boucher le trou de la bouche. Le sein fait partie d'ailleurs du sujet lui-même. Il ne fait pas partie de la mère. Et donc, c'est quelque chose qui échappe dans l'image. Je vous ai dit, je vous donnerai un exemple concret. Je vais vous ramener cet exemple, je l'ai ici avec moi. Donc c'est, au fond, c'est dans l'exemple de Lacan, la carte marine avec l'île, eh bien c'est parce que on a dessiné le pourtour, le contour, le périmètre de l'île qu'on peut dire il y a une île. Il y a un trait qui dessine l'île. Ici, il faut le vase pour savoir qu'il y a un vide. Le vide ne se représente pas. On ne peut que le représenter par un bord. Et le trou marque qu'il y a un vide. Alors l'objet, c'est ce qui viendrait à cette place, qui viendrait à cette place-là. Mais c'est un blanc. C'est le blanc de sur le plan de la carte marine, à l'intérieur du dessin, si vous voulez. Donc ce qui fascine, l'intérêt, c'est la partie laissée en blanc dans le dessin. C'est la trace, c'est ce que la trace de son périmètre laisse à penser qu'elle pourrait contenir, ce qu'elle pourrait contenir, et qui justifie son investissement, la libido. C'est son contenu. Alors, pour l'illustrer, je vous ai promis un petit exemple, le voici. C'est l'exemple de Lacan. Pour l'illustrer, bien, Lacan propose de se reporter à l'image érigée de la fascination, du désir, dans le tableau de Botticelli, que vous connaissez sûrement, La naissance de Vénus. Alors, je l'ai ramené. Le voici, ce tableau. Vous le voyez au fond, là-bas ? Ouais. Mais il est aussi repris, c'est pas par hasard, il est repris dans l'affiche, c'est le moment de le glisser, l'affiche du prochain congrès de l'ECF à Rennes. Vous voyez ? Alors bon, on connaît quand même hein, cette peinture, tout le monde. Mais bien sûr que je vais expliquer pourquoi. La naissance de Vénus. Vénus sortant de l'onde. Et son corps érigé au-dessus des flots de l'amour amer. Alors Vénus, dit Lacan, mais c'est aussi bien Lolita, après tout. Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend, à nous, dit-il, analyste, cette image ? Eh bien, elle nous apprend ce que Fénichel nous a transmis de cette équation symbolique qui est connue d'ailleurs aussi, girl égale phallus. Le phallus est ici représenté symboliquement. C'est tout à fait étonnant. Et Lacan précise que là où nous voyons symboliquement le phallus, c'est justement là où il n'est pas. C'est très étonnant dans la peinture. Elle est là. Il est là où nous le supposons sous le voile. Là où le phallus est manifesté dans l'érection du désir, eh bien, sur ce schéma, c'est de ce côté-ci du miroir, il le met à la place de l'année suivante, à la place de la fleur, là. Où est-ce que je suis là ? Donc, et s'il est dans le corps éblouissant de Vénus, c'est justement tant qu'il n'est pas là. Il est supposé, si vous voulez. Donc, si cette image du corps féminin érigé tel un phallus est investi, eh bien sa brillance, sa fascination tient à ce que le phallus qu'elle symbolise, lui n'y est pas. C'est pourquoi là où il est, c'est aussi là où il n'est pas. C'est compliqué, ça. Mais c'est un négatif. Alors, vous voyez, cette métaphore artistique nous permet de situer le point central de ce dont il s'agit dans le désir. Le désir, répète ici Lacan, eh bien, est donc à distinguer de la demande et du besoin. Alors, le désir, où est-ce qu'il est ? Eh bien, dans la gravure que je vous ai montrée, le désir, il a son siège dans le reste auquel correspond dans l'image un mirage, si vous voulez, qui fait que la peinture est justement identifiée à la partie qui lui manque. Parce que c'est ça qui est observé, la partie qui lui manque, et dont la partie manquante, l'absence, ou plutôt, c'est joli, la présence invisible, dit-il, donne à ce qu'on appelle la beauté, la brillance à ce tableau. Alors, il va reprendre maintenant les différentes formes que peuvent prendre les objets A. Donc les objets A les objets A précurseurs, c'est-à-dire ce qui pourrait se situer dans les trous du corps, si vous voulez. Les objets en tant que séparés. Donc prenons d'abord le premier objet, l'objet saint. Pour le distinguer, c'est ce qu'il va faire, c'est ça qui est essentiel. Pour distinguer le saint en tant qu'organe qui viendrait boucher le trou nourricier, le trou de la bouche, mais le sein comme autre chose que ça, si vous voulez. Donc, prenons le sein, l'objet oral. Et dit-il, il faut savoir que les saints prennent leur fonction dans le désir adulte, que pour autant qu'ils ont antérieurement joué leur rôle à la même place dans la dialectique de l'amour. Et cette dialectique s'instaure à partir des demandes primitives et des réponses primitives. On en a déjà parlé, voyez, comme je le faisais remarquer plus haut, au niveau par exemple de la demande orale. Il y a en effet appel à un au-delà de ce que peut satisfaire l'objet oral, le saint. Et le saint, dans cette dialectique, n'est pas seulement ce qui se prend, mais aussi ce qui se repousse, ce qui se refuse, parce que déjà, on veut autre chose. Alors, si on prend l'objet anal, c'est l'objet qui est demandé, là, par la mère. Eh bien, l'objet qu'on lui offre, ou qu'on lui refuse, et où se confondent ici l'être et la voix. C'est une nuance importante. Et dit-il, avec l'objet, dans la phase phallique, l'avènement du phallus prend cette dialectique, dans cette demande dialectique, la demande, c'est là qu'on voit se réunir dans le phallus la distinction justement entre l'être et la voir. On va essayer de définir la différence qu'il y a entre les deux. Et dit-il, la peinture de Botticelli vient ici à notre aide pour comprendre ce dont il s'agit dans la dialectique de l'être et de la voir. Dans cette peinture, dans laquelle l'objet s'incarne comme objet de désir, il est clair, nous dit Lacan, que le phallus s'incarne justement dans ce qui manque à l'image. Et c'est là que s'origine tout ce qui sera la suite du rapport du sujet à l'objet du désir. C'est-à-dire que c'est pour ça que Fénichel a pu faire cette équation « girl » égale « phallus ». C'est-à-dire qu'à défaut de l'avoir, la femme, en le voilant, peut l'être, si vous voulez, cet objet désiré. Vous voyez le saut qui est fait, c'est compliqué ça. À défaut d'avoir l'organe, la femme se revêt du voile, laissant supposer qu'elle l'a. Et dans cette opération, si vous voulez, elle est attirante. Elle est l'objet de elle s'identifie à l'objet du désir de l'autre. Donc vous voyez qu'il y a un saut qui est fait entre l'avoir et l'être. Alors, il fait une autre gymnastique encore, Lacan. Une autre gymnastique difficile pour essayer de définir ce que c'est que cet objet lui-même, l'objet non recouvert. S'il n'était pas voilé, qu'est-ce qu'on aurait ? À quoi si on allait gratter, si on allait voir derrière, qu'est-ce qu'on trouverait ? Donc, je vous ai dit, il fait remarquer que ce que cet objet, il faut plutôt le voiler. Il dit qu'il s'agit d'interroger ce qu'il a dans le ventre, cet objet. Si on tente de soulever le voile qui enveloppe l'objet, qu'est-ce qu'on voit ? Si on dépasse la barrière du voile pour isoler la fonction de cet objet, de l'objet A, on se situe, dit-il, sur la ligne sadienne, par où l'objet est interrogé jusqu'aux profondeurs de son être et tenu de répondre à ce qu'il a de plus caché pour remplir le vide, de ce pourtour de l'île qu'on évoquait tout à l'heure, en tant qu'elle est fascinante. Alors, pour avancer un petit peu, je vais vous lire un extrait qui a un rapport avec ça. L'extrait d'un article qui est paru tout à fait récemment, d'un exposé qu'a fait Jacques-Alain Miller à Barcelone. Je vais vous lire ce petit extrait pour avoir une petite idée de ce que ça peut être cet objet. C'est un texte qui a pour titre « Le salut par les déchets ». Alors, il dit ceci, « Qu'est-ce que le déchet ?» Le terme a beaucoup de résonance pour ceux qui, même simplement, parcourent l'enseignement de Lacan. Qu'est-ce qui est rejeté ? Et spécialement rejeté au terme d'une opération dont on ne retient que l'or, la substance précieuse qu'elle apporte. Le déchet de ce que les alchimistes appelaient le caput mortuum. C'est ce qui tombe, ce qui choie. C'est ce que l'on négative ou que l'on fait disparaître pendant que l'idéal resplendit. Et ce qui resplendit a une forme. On pourrait dire que l'idéal, c'est la gloire de la forme, tandis que le déchet est informe. Il est prélevé sur une totalité dont il n'est que morceau, pièce détachée. Alors, j'ai pas pris l'ensemble du texte, il fait référence à ce qu'il a dit plus haut. À ce propos, dit-il, je corrigerai une nuance que j'ai dite rapidement sur le surréalisme. Certes, il est dans la ligne de la psychanalyse. Il est l'un de ses effets qui fut, quant à l'art, des plus rapides et des plus retentissants. Mais ne peut-on pas dire aussi bien que c'est au titre de défense? Le surréalisme, c'est un art en effet. C'est-à-dire qu'il procède à une esthétisation du déchet. Il fait passer le déchet au registre de l'esthétique. Et par là, s'il modifie la définition du beau, il ne remet pas le beau en question. Et on peut noter que depuis lors, en effet, l'art dit contemporain s'est occupé, au moins à partir de Marcel Duchamp, vous connaissez Marcel Duchamp, à nous offrir le déchet même comme objet d'art. Et si on y pense, ce n'est pas le propre du surréalisme. C'est ce que l'art a toujours fait. C'est l'essence de l'art, ou plutôt son procédé, qui, par le surréalisme, a été, si je puis dire, mis à nu. L'essence de l'art, c'est d'esthétiser le déchet, de l'idéaliser, ou comme on dit en psychanalyse, le sublimer. On se souvient de la définition que Lacan donnait de la sublimation. Élever l'objet petit a, je pense que c'est connu, dit-il, je ne vais pas le redéfinir. Élever l'objet petit a à la dignité de la chose. J'évoque la chose parce que donc peut-être on y viendra l'année prochaine, non? Oui. C'est le séminaire qui précède d'ailleurs, non? Dans l'éthique de la psychanalyse. Cette définition, donc élever l'objet petit a à la dignité de la chose. Cette définition est certainement très éclairante, mais pourtant, elle ne saurait nous satisfaire aujourd'hui. Car ce qu'il désigne comme la chose, ce que Lacan désigne comme la chose, eh bien la chose, dans ce séminaire, notez ça, c'est déjà une version sublimée de la jouissance. Cette sublimation est déjà désignée par deux mots, le verbe « élever » et le substantif « dignité ». Cependant, la jouissance comme telle ne tire pas vers le haut. Elle est nue, elle est crue, au sens opposé à cuit. Elle est crue, elle n'a pas de dignité ou se draper. Ce que Lacan vise comme la chose, c'est la chose idéalisée, nettoyée, vidée, réduite au manque, réduite à la castration, réduite à l'absence du rapport sexuel. Quand la jouissance est élevée à la dignité de la chose, c'est-à-dire quand elle n'est pas abaissée à l'indignité du déchet, elle est sublimée, c'est-à-dire socialisée. C'est ce ce qui attire dans la peinture. Ce qu'on appelle sublimation effectue une socialisation de la jouissance. La jouissance est socialisée, c'est-à-dire intégrée au lien social, au circuit des échanges. Elle est mise au travail dans le discours de l'autre et pour satisfaire. Donc, je trouvais que cet extrait était fort intéressant à intercaler ici, quand on parle de l'objet, justement. Ce qu'on trouve derrière l'objet, c'est le déchet. C'est le réel, en fait, l'objet réel. Donc, Lacan opère ici, si vous avez bien entendu ce que j'ai voulu amener, il opère ici un décalage entre l'objet du désir et l'objet réel, en soulignant que l'objet du désir est déterminé par le caractère négatif, c'est le blanc, si vous voulez, dans l'image, comme on peut tenter de le mettre en évidence dans la réalisation artistique. L'objet du désir inclut ce manque, donc inclut le phallus. Mais si l'on dénude l'objet du désir, si par malheur il s'attrape, il surgit dans son caractère positif, comme il l'est en trop dans certaines formes de psychose. Il surgit alors comme objet réel, tout cru. Et la question que pose Lacan, c'est comment et pourquoi c'est à partir du sujet que peut se saisir la dialectique du sujet, du désir. Alors, où est-ce qu'on en est là? On a un peu de temps quand même pour s'arrêter. 10 minutes, oui. Je voudrais laisser un peu de place au débat, oui. J'allais reparler de deuil et mélancolie, mais je vais peut-être laisser ça. Pour m'arrêter juste alors à la fin, parce que je trouve que la fin de ce séminaire, au fond, c'est la dernière séance, la fin ne conclut pas, si vous voulez. La fin nous laisse un peu sur notre fin. Il tente de conclure ce séminaire, de préciser ce séminaire qui est centré sur le transfert, en essayant de dire quelque chose encore de la position de l'analyste, si vous voulez. Alors, il dit ceci, c'est que l'analyste doit au moins entrevoir, lorsqu'il s'agit du transfert, et de l'amour de transfert, c'est que cet objet petit a, c'est ce qu'il a voulu préciser pendant ces deux leçons en tout cas, cet objet petit a, eh bien, après tout, n'importe lequel peut venir le remplir, cette fonction-là. Il doit savoir ça. C'est-à-dire, à fond, après tout, là, il n'y a pas lieu de présentifier cet objet. Il n'y a pas lieu de le... Il y a lieu de le faire briller, si vous voulez. Alors cette remarque... Et donc ce qu'il dit, c'est que l'analyse doit savoir qu'il n'y a pas d'objet qui ait plus de prix qu'un autre. Alors cette remarque, elle me semble importante quand même. Pourquoi ? Parce que c'est autour du deuil qu'est centré le désir de l'analyste. C'est que, à l'instar de Socrate, dit-il, ce n'est pas sur la personne de Socrate que portent les dires d'Alcibiade, mais ça s'adresse à un autre. Voilà ce que Lacan tente de définir du transfert au moment où il en est en 61, avec, dit-il, ce qu'elle comporte dans un certain deuil. Donc le transfert met en place les coordonnées de l'amour, parce que justement, si on saisit bien ce que c'est que l'amour, au fond, eh bien c'est donner ce qu'on n'a pas. Mais c'est, au fond, rendre peut-être tangible le, le contenant, pas le contenu, l'enveloppe, si vous voulez. Et donc, ce qui sera amené à développer, à expliquer beaucoup plus par la suite, notamment en 67, avec son mathème du transfert, c'est surtout avec le discours de l'analyste, c'est que la place qu'il occupe dans cette relation analytique, dans ce discours qui est mis en place, c'est plutôt une place de semblant d'objet. Je vais en rester là pour laisser de la place un peu à la discussion aussi et aux questions. Il doit y avoir des zones d'ombre.
Mais peut-être avant d'adresser une question ou deux, le temps de laisser à chacun d'entre vous la possibilité de formuler les vôtres. Je vais me saisir de la page que vous m'avez tendue à propos de ce qui se passera l'an prochain, puisque traditionnellement, c'est à la fin de la conférence que Philippe et moi, on vous annonce au fond le thème qu'on a retenu l'an prochain. Alors, au départ de cette année, on avait effectivement hésité entre ce séminaire 8 et le séminaire de l'éthique de la psychanalyse. Et donc, l'année prochaine, nous vous parlerons, alors je retrouve mes notes un instant, sous le titre « Amour, jouissance réelle, lecture du séminaire 7 de Jacques Lacan, l'éthique de la psychanalyse ». Séminaire donc qu'on retient pour l'an prochain. Alors voilà, ça fait écho au fond à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Le déroulement de l'année sera semblable à cette année et aux précédentes, donc on gardera cette formule de conférencier se succédant. Alors, des questions. D'abord, je vous remercie pour l'exposé extrêmement complet, clair et justement très pas à pas que vous nous avez fait en reprenant certains concepts. Et puis, je vais reprendre peut-être des petites phrases comme ça en vous laissant répondre ou non, parce qu'il y en a peut-être trop, je n'en sais rien. Vous avez donc dit « L'angoisse précède l'arrêt du désir, car c'est à ce moment-là que l'objet se dévoile. » Mais justement, ce dévoilement, enfin, je me disais, il n'est pas si évident, si visible, puisque on vient, par exemple, en analyse avec l'angoisse. Donc, si vous pouviez un peu commenter ça. Oui, vous avez aussi parlé, au fond, de l'introjection du trait unaire dans les identifications, en rappelant, au fond, le passage de Lacan sur le deuil, et qui indique qu'au fond, c'est à partir du moment où on est arrivé au bout de ces introjections de traits un à un, qu'il n'y en a plus, au fond, qu'on peut dire que le travail de deuil se clôt, si j'ai bien...
Ne dit pas tout à fait les choses comme ça. Lacan dit qu'il faut identifier une série de traits chez l'objet dont on fait le deuil, mm-hmm, pour qu'à un moment donné, on épuise ça et que ce soit fini, qu'on puisse se détacher. Mais le principe de l'identification, toutes les formes d'identification, enfin, il faut distinguer les identifications symbolique des identifications imaginaires. Donc, les identifications imaginaires, c'est sûrement l'exemple qui a déjà été repris. Hein. C'est la lycéenne qui reçoit une lettre de rupture, une lettre de rupture de son amoureux, et qui communique son chagrin à toutes les filles du dortoir, par exemple. Ça, c'est une identification imaginaire. Mais les autres formes d'identification, c'est toujours par prélèvement d'un signifiant au lieu de l'autre. Et notamment, il y a un premier signifiant qui est le trait, donc le trait unaire, le tout premier signifiant, qui est un signifiant important, qui est un signifiant de l'histoire éventuellement aussi du sujet, de l'histoire familiale du sujet, à partir duquel va pouvoir se construire le mythe du sujet lui-même, notamment pendant sa cure. Enfin, comment lui il a construit sa propre histoire, comment lui il s'est inscrit dans cette famille, cette famille-là, comment il s'est identifié à la famille, comment il a porté son nom. C'est en prélevant un trait au lieu de l'autre dans la famille, c'est un trait à partir duquel il va construire toute son histoire, associer et construire toute une histoire.
Voilà. Alors, il y avait, c'est peut-être un peu trop précis, mais il y avait une distinction qui faisait à ce moment-là, au fond, entre névrose et mélancolie. Je trouvais qu'au niveau clinique, c'était vraiment intéressant et fin, cette différence-là. Et puis alors, peut-être juste une dernière question. Vous avez parlé...
Je n'ai pas développé ça. Mais
oui, de signifiant, justement, comme très unaire. Là où, au fond, à la dernière conférence, on parlait plutôt, dans les trois types d'identification de Freud, repris par Freud, de signes. Alors, d'où vient cette différence? J'en resterai là.
Signes. Les deux premières formes d'identification sont des identifications qui consistent en un prélèvement d'un trait dans l'autre. C'est par exemple... Il y a l'identification primordiale, la première identification, qui est le prélèvement d'un trait au lieu de l'autre, un signifiant, que Lacan définira comme étant un S1 après, dans le discours. Un sujet est représenté par un premier signifiant auprès des autres. Ça, c'est la définition du sujet. Hein. Mais les autres, l'identification, par exemple, l'identification hystérique, je n'ai pas dit, donc, l'identification symptomatique, se fait aussi de cette façon-là. C'est l'exemple qui est couramment donné, c'est que quand une femme est laissée tomber, est abandonnée par l'homme qu'elle aime, une façon de faire son deuil, au fond, si on veut, de pouvoir se détacher de lui, de le désinvestir, c'est là où c'est dans une dialectique, le désinvestissement de cet homme qu'elle a aimé se fait souvent, enfin toujours, dans le cas de l'hystérie, par prélèvement d'un trait de cet homme qu'il a laissé tomber, bien, dont elle s'est détachée. Et d'ailleurs, le moi qui se constitue est un moi que Freud utilise la métaphore d'oignon, constitué de ses pelures, est un moi constitué de ses différentes identifications, prélevées chez l'autre, chez le père, chez le père défaillant, chez l'amant, chez ces personnes dont elle doit se détacher. Qu'elle investit, mais c'est aussi des signifiants. Alors, je ne sais pas, on a utilisé le terme de signe. Ce sont des signifiants.
Oui.
Maintenant, c'était aussi ma question, parce qu'effectivement, la page 419, Lacan ici, parle spécifiquement, dit que le trainer, c'est pas un signifiant, c'est un signe. Donc, il fait la distinction, et c'est vrai que.
Où ça? Page 419?
Peut-être qu'il a évolué dans le.
Merci. Oui, plus loin, donc, voilà, plus loin, il parle de signifiant. Oui, mais c'est un signifiant, enfin, il va s'arrêter au signifiant quand même.
Je ne sais pas si c'est ça, mais ce point granti du trait unique, ce signe de l'introjection, non, ce signe de l'assentiment de l'autre, du choix d'amour sur lequel le sujet peut opérer.
Mais ça ne le définit pas comme signifiant, c'est un signe.
Et se règle dans la suite du jeu du miroir.
Oui.
Il suffit que le sujet aille coïncider dans son rapport avec l'autre pour que ce petit signe, cet Einziger Such, soit à sa disposition.
Comment ?
Ces signes en tant que trait.
Je n'ai pas compris.
Ces signes en tant que trait.
En tant que trait.
Petrosini. Oui.
Cherche.
Dans Lacan qui voit en fond que le sujet se maintient, le sujet se défend, le sujet ne dit pas comme ça, mais il n'y a de subsistance pour le sujet vraiment que dans le signifiant. Hein, dans le schéma soumet, dans le fond, le salut c'est moins tout, le salut c'est le manque, c'est le désir. Le salut dans le manque c'est la santé. Il y a deux formules. Page 442, il dit que l'objet est homme. L'objet se trouve à travers l'objection. D'une certaine façon, on pourrait dire ça, que l'objet est l'objection.
Je ne suis pas sûr qu'on entend en fond.
Ah. Il sait que Lacan, dans ce séminaire-là, il est dans le...
Oui.
Il considère que le salut du sujet, sa santé, sa subsistance, est dans le signifiant. Et que l'objet vient là, l'objet qui sera l'objet de jouissance plus tard, il l'amène ici toujours vraiment en termes de... un terme plutôt menaçant, et en tout cas, le sujet s'en défend. Il situe un peu les choses comme ça. Parce que j'étais frappé, donc, il y a cette citation, la page 442, dit « l'objet est ob », et on entend que...
Comment tu comprends ?
L'objet est ob.
Oui, oui.
Hein? Donc, l'objet se trouve à travers les objections. Hein? Je ne procède dans le monde des objets que par la voie des obstacles mis à mon désir. Et c'est frappant de voir cette définition de l'objet comme obstacle au désir.
Oui.
Dans le fond. Comme obstacle à une satisfaction.
À la réalisation du désir.
Oui, voilà, à la réalisation du désir, entendu oui. comme... évidemment, réalisation heureuse.
Voilà.
Hein? Et il y a un passage que moi j'avais trouvé absolument somptueux quand il parle de... évidemment, vous ne le retrouve plus. Quand il parle de Genet.
Oui.
Hein? Page 458, il fait remarquer que il faut toujours, dans la réalisation d'un fantasme, le sujet veut toujours, il a été piqué, sachez dans le journal du voleur de Genet, que ça ne fasse pas vrai. C'est toujours la garantie vraiment qu'on peut être bien tranquille, il n'y a pas d'objet en vue, on est toujours dans le signifiant, donc toujours dans le masque, dans la mascarade, ce sont des mots. Hein, et puis, il y a évidemment l'image péculaire. Tu serais d'accord qu'on dise que ce passage-là, page 461, c'est une façon. Tu disais que quand l'objet est là, c'est l'angoisse. Il y a aussi une autre variable de l'angoisse qui est par exemple le dégoût. L'image spéculaire a bien sûr une phase d'investissement, mais aussi une phase de défense. C'est un barrage contre le pacifique de l'amour maternel.
Voilà.
Disons simplement que l'investissement de l'autre est défendu par le moi idéal. L'investissement dernier du phallus propre est défendu par le phobique. J'irai jusqu'à dire que la phobie, c'est le signal lumineux qui apparaît pour vous avertir que vous roulez sur la réserve de libido. On peut rouler encore un certain temps avec ça.
C'est-à-dire que donc, comme l'objet est là, le désir s'en va. Le désir annonce la fin de sa carrière. C'est pas ce passage-là que je voulais citer. Oui, c'est ça. Quand tu parlais du phallus qui était comme ce qui manque dans l'image, c'est même ce qui le définit. Eh bien donc, il fait cette remarque. Il dit, voilà, les symptômes hystériques se laissent comprendre comme le négatif de cette fonction définie comme l'exclusion du génital.
Comme ?
L'exclusion du génital, page 445. Oui. L'amour de l'objet qui caractérise le stade phallique, disait Abraham, note qu'il y a toujours une exclusion des génitoires, moins phi. En général, un homme, quand on le représente nu, c'est tout. Il y a toujours un moins-fi quelque part.
Oui.
Et quand on le représente complet, ça a toujours un effet de féminisation. Eh bien, pour le viriliser, un homme, on lui mettra un pagne. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et j'ai trouvé cette remarque, le symptôme hystérique se laisse comprendre comme le négatif de cette fonction définie comme l'exclusion du génital. Dans le fond, on peut mettre dans la série de l'angoisse et de la phobie le dégoût.
Oui.
Enfin, c'est tout.
Tout à fait. Oui.
Une longue association.
Oui, oui, tout à fait.
Parce que c'est vraiment une question.
Oui, oui.
La suite de l'enseignement de Lacan, ces termes-là se concèdent, toujours, et en même temps, la perspective change. Ici, tu es d'accord, on dit, en fond, qu'il a l'idée ici que vraiment... hors du signifiant, point de salut.
Exactement.
Alors qu'il dira plus tard que... Allez, une façon de dire blablabla, bla, bla, mais...
Naturellement, mais enfin, c'est déjà un peu... c'est repris dans ce que Miller dit aussi.
Oui, c'est... Toi, hein.
C'est explicite, là. Hein. C'est, ici, c'est plutôt... on est plutôt dans le... Dans...
Le salut par le signifiant.
Le salut par le signifiant, voilà. Plutôt, au commencement, était le verbe... Après, ce sera plutôt le commencement et la jouissance. C'est plutôt...
Et à la fin aussi.
À la fin aussi. À la fin aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui.
Une question ? Bon, mais alors, peut-être avant qu'on se quitte, je vous rappelle que j'avais proposé un verre de l'amitié vers des participants la fois passée. Je pense que c'est en bas dans le hall d'entrée, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir comment Cindy Bloquier nous avait préparé ça pour cette fin de journée. Alors, vous avez été très peu nombreux à y répondre, mais si vous changez d'avis, eh bien, on partagera ce qui est disponible et vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci à vous pour toute cette année, votre présence, et merci aux conférenciers.